بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على النبي أما بعد on continue في صفة الوضوء dans la description des ablutions du prophète صلى الله عليه وسلم donc on est arrivé au grand 3 le grand 3 qui est غسل الوجه le fait de se laver le visage donc on a cité grand 3 se laver le visage petit 6 puis se laver le visage 3 fois et la preuve on est sur hadith ثم غسل وجهه ثلاثة on a rapporté que le prophète عليه الصلاة والسلام se lava le visage 3 fois. Ce hadith est rapporté par le Bukhari. Et Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, a cité que selon les fuqaha, selon les savants, les limites du visage vont de l'endroit où poussent les cheveux jusqu'au menton. Donc, pour la longueur, de l'endroit où poussent les cheveux jusqu'à l'extrémité du menton. Sans tenir compte du cas du chauve. Si une personne est chauve, elle n'a pas à commencer du haut de son crâne. Elle n'a pas à faire son crâne. Elle commence à l'endroit habituel où poussent les cheveux. Voilà pour la longueur. Et pour la largeur, c'est d'une oreille à une autre. Donc d'une oreille à une autre. Donc ici, on attire l'attention sur un point très important qui est cette zone qu'il y a entre l'oreille et la barbe. La zone qu'il y a entre l'oreille et la barbe fait partie de l'wajh, fait partie du visage. Donc il faut faire très attention à la laver lorsqu'on accomplit le wudu. Puis on a cité passer les mains mouillées à travers la barbe épaisse. Et la preuve en est sur Hadith Wanas, radiallahu anhu, rapporté Kana idha tawadda akhadha kaffan min ma fa adkhalahu tahta hanaki fa khallala bihi lihyata. Donc lorsque le prophète accomplissait le wudu, il prenait une poignée d'eau wa khallala bihi lihyata. Alors le verbe khallala signifie le fait de faire passer l'eau à travers une chose. Donc, khallala bihi lihyata, c'est faire passer les mains humides à travers la barbe. Donc, le prophète faisait passer l'eau à travers sa barbe. Khallala bihi lihyata. Wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jal. Et il disait, c'est ce que m'a ordonné mon Seigneur azza wa jal. Ce hadith est rapporté par Abu Dawood et Sheikh al-Albani l'a authentifié. Donc, voilà pour ce qui en est de la barbe qui est épaisse. Et mais si la barbe est fine, dans ce cas-là, eh bien, il faut la laver avec le visage. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, pour différencier entre la barbe légère et la barbe épaisse, قال الخفيف. Alors الخفيف, c'est la barbe qui est légère. قال فالخفيف يجب غسله وما تحته. Il a dit que si la barbe était légère, il fallait la laver et également la peau qu'il y a en dessous de la barbe. والكثيف الكثيف, c'est la barbe qui est épaisse. قال يجب غسل ظاهري. Il faut laver l'extérieur de la barbe qui est épaisse. دون باطني, mais non pas l'intérieur, non pas jusqu'à la peau. Donc voilà la différence. Si la barbe est légère, il faut la laver ainsi que la peau qu'il y a dessous. Et si la barbe est épaisse, il faut laver juste ce qui est apparent. D'accord ? Et non pas la peau qu'il y a dessous. Voilà la différence entre la barbe épaisse et légère. Et comme on l'a dit, il est recommandé de placer les doigts humides, de passer les mains humides, les doigts humides, à travers la barbe qui est épaisse. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, attire également l'attention sur des parties qu'on peut négliger. Alors il a dit qu'il fallait également se laver charib. Charib, ce sont les moustaches. Donc il ne faut pas oublier de laver ses moustaches lorsqu'on accomplit le wudu. Wa qala Al-anfaqa, c'est la petite touffe de barbe qu'on a sous les lèvres. Donc les hommes ont une petite touffe de barbe sous les lèvres. Eh bien, il faut faire très attention de ne pas l'oublier lorsqu'on accomplit l'odo. Il a cité également al-hadab. Al-hadab, ce sont les cils. Wal-hajibayn, c'est-à-dire les sourcils. Donc il faut penser également à se laver les cils et les sourcils lorsqu'on accomplit l'odo. Donc il faut penser à toutes ces choses-là qu'on peut négliger. Et ici, on va se poser cette question-là. Et la barbe qui pend, si une personne a une barbe qui pend, on a vu que les limites du visage étaient pour la longueur, de là où débutent les cheveux, là où poussent les cheveux, jusqu'au menton. Si une personne a une longue barbe, c'est-à-dire que cette barbe-là va descendre en dessous du menton, doit-elle la laver ou pas? La réponse est ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. قال الأحوط والأولى غسل مستور سلا أي نزل من اللحيين والذقن. Il a dit que l'ahwat, c'est-à-dire le plus prudent Et le meilleur était de laver ce qui pendait, c'est-à-dire la barbe qui descend en dessous du menton. Donc voilà, il est plus sûr de laver également la barbe qui dépasse en dessous du menton, qui pend. Voilà la réponse de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh. Puis on a cité, grand 4, se laver les avant-bras jusqu'au coude compris. Et on a cité ce verset où Allah azawajal dit: Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila s-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Al-marafiq, ce sont les coudes. Donc Allah azawajal nous enjoint de se laver le visage et les mains jusqu'au coude. Et ici, le sens du harf jar, il est, il a le marafiq, signifie en fait ma'a, c'est-à-dire avec le marafiq, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen. Quand le Cheikh Ibn Uthaymeen, il a fait l'aya bima'na ma'a. Donc le sens est avec les coudes. Donc il faut se laver les mains, les avant-bras jusqu'au coude, c'est-à-dire avec le coude également. Le coude est inclus dans le lavage. Donc il faut faire très attention à ne pas oublier les coudes lorsqu'on se lave les bras. Et ce qui appuie cela est ce hadith où Abu Hurayra radhiyallahu anhu il a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le wudu hatta ashra'a fil adud. Il a commencé l'adoud. L'adoud, c'est le haut du bras. Donc, il a commencé à se laver le haut du bras. Cela signifie qu'il s'est lavé le coude également. Il a commencé la partie qui est le haut du bras. Donc, le coude est compris dans le lavage. Et si on va se poser cette question-là, si une personne n'a pas de main, par exemple, si une personne a la main coupée, que doit-elle faire? La réponse, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, et qu'elle doit se laver ce qui lui reste. Donc, si une personne a une main qui est coupée, par exemple, au niveau du poignet, eh bien, elle lave son avant-bras. Il a cité que si une personne n'avait pas son avant-bras en entier, elle n'avait pas à se laver seulement le haut du bras, car il n'est pas venu qu'il fallait se laver le haut du bras. Puis, on a cité, neuvièmement, passer de l'eau entre les doigts des mains. C'est ce qu'on appelle tahlil. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit: Alors, khallil, c'est le verbe qui signifie le fait de passer de l'eau. Fais khallil bayna asabi'i yadayk, entre les doigts de tes mains, wa rijlik, et de tes pieds. Donc, il a dit que lorsqu'on accomplit le wudu, il fallait passer de l'eau entre les doigts, aussi bien des mains que des pieds, les orteils. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi et Sheikh Al-Albani, le juge Hassan, le juge bon. Donc, il faut faire très attention à ce que l'eau passe entre les doigts, aussi bien les doigts des mains que des pieds. Cinquièmement, on a cité al-mash, c'est-à-dire le fait de passer les mains mouillées sur la tête. Donc, c'est ce qu'on appelle al-mash. Donc, il faut passer les mains mouillées sur la tête d'avant en arrière, puis d'arrière en avant. Et cela, il faut le faire une fois. Et il faut faire également les oreilles. On a cité, petit 10, puis passer les mains mouillées sur la tête, en commençant par devant jusqu'à la nuque, puis revenir devant. Ceci une fois. Donc il faut le faire seulement une fois. Et la preuve, on est sur hadith où Abdallah ibn Zayd, radhiyallahu anhu, a rapporté: Thumma masaha ra'sahu bi yadayhi. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, a passé ses mains mouillées sur sa tête. Fa aqbala bihima wa adbar, bada bi muqaddami ra'sihi, hatta dhahaba bihima ila qafah. Le prophète a passé ses mains mouillées sur sa tête d'avant en arrière et inversement. Il a commencé du front jusqu'à la nuque. Puis il est revenu là où il avait débuté. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc il faut se laver la tête d'avant en arrière, puis inversement, c'est-à-dire d'arrière en avant, une fois seulement. Puis on a cité, onzièmement, puis passer les mains mouillées sur les oreilles, avec l'eau utilisée pour la tête qu'il reste sur les mains. Donc ici, il ne faut pas reprendre de l'eau. Il faut se passer les mains mouillées sur les oreilles avec l'eau qui a été utilisée pour la tête. Nos mains sont toujours humides. Eh bien, on n'a pas besoin de reprendre de l'eau. Et ici, il faut faire pénétrer l'index dans l'oreille et passer le pouce sur le contour externe de l'oreille. Et la preuve, on est sur Hadith où Abdallah ibn Omar radhiyallahu anhu a rapporté: ثم مسح برأسه فأدخل إصبعي السباحتين في أذني ومسح بإبهامي على ظاهر أذني وبالسباحتين batina adhunay. Donc le prophète alayhi salat wa salam a introduit son index dans l'oreille. Il a passé le pouce sur le contour externe de l'oreille. Donc voilà la façon de faire. Donc il faut introduire les index dans l'oreille et à l'aide du pouce faire le contour externe de l'oreille. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Shir al-Albani rahmatullah alayh. Donc ici, le prophète alayhi salat wa salam nous a montré la façon de faire. Et pourquoi cela? Car les oreilles font partie de ras. Les oreilles font partie de la tête. Donc il faut les laver également. Et également, ils ont cité que annahuma alat as-sam'a. Les oreilles servent à écouter, à entendre. فكان من الحكمة أن تطهر حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي. Eh bien, tout comme elles font partie de notre corps, eh bien, il faut les purifier des péchés qu'elles ont pu commettre. Donc, si une personne, par exemple, a commis des péchés avec ses oreilles, par exemple, en écoutant quelque chose qu'il ne fallait pas écouter, eh bien, cela est un moyen de purifier nos oreilles des marasis qu'elles ont pu commettre, des péchés qu'elles ont pu commettre. Donc voilà pourquoi il faut laver les oreilles. La hikma, la sagesse pour laquelle il faut laver également les oreilles. Et ici, on va se poser cette question-là. Est-il permis de se passer de l'eau sur la tête, par exemple se laver les cheveux, sans accomplir le mesh, sans se passer les mains sur la tête? Est-ce que le fait de faire couler de l'eau sur les cheveux remplace le fait d'effectuer le mess? Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi a cité que le mess était afdal. D'accord, le mess, passer les mains sur la tête, était meilleur. Et il a dit que le fait de faire couler de l'eau sur la tête, cela était à revoir. Car il y a une différence entre le mess et le ghusl. Alors la différence entre le mess et le ghusl est que lorsqu'on fait le mess, on n'a pas besoin de faire couler de l'eau sur la tête. Par contre, quand on se lave les cheveux, ce qu'on appelle le ghusl, dans ce cas-là, il faut faire couler de l'eau sur la tête. Donc, il y a une différence entre le mess et le ghusl. Et le fait de faire seulement couler de l'eau sur la tête était à revoir. On ne peut pas dire que cela remplace le mess. Par contre, il a dit que si on fait couler de l'eau sur la tête et qu'en même temps, on se passe les mains sur les cheveux sur la tête, qala fal amr fi hadha qareeb. Donc dans ce cas-là, inshallah, cela est valable. Mais si on ne passe pas les mains, cela en apparence n'est pas valable. Puis on a cité sixièmement se laver les pieds jusqu'au kab. Les kabs, ce sont les os qu'il y a au niveau des chevilles et ils sont inclus dans le lavage. Il faut laver également le kab. Donc on a cité douzièmement puis se laver les deux pieds jusqu'aux deux kabs inclus. El kab, que l'on trouve traduit par cheville, désigne en fait les deux saillies osseuses en bas du tibia qui se nomment malléole interne et malléole externe. Donc, le kerb, on le trouve souvent traduit par les chevilles. On trouve dans les traductions « et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles ». Mais en fait, le kerb désigne les deux os qu'on a en bas du pied, au niveau des chevilles, les deux boules à droite et à gauche. Voilà le kerb. Donc, on a deux os à droite et à gauche, et c'est cela, le kerb, en arabe. Et après avoir effectué des recherches, eh bien, j'ai trouvé que cela, en fait, s'appelait les malléoles internes et malléoles externes. Donc, voilà. Le kerb, ce sont les malléoles internes et les malléoles externes. Et la preuve, on est ce verset où Allah Azza wa Jal dit « وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » Donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous enjoint de se laver les pieds jusqu'aux deux kerbes. Donc, il faut se laver les pieds jusqu'aux deux kerbes et les deux kerbes, les deux os, sont inclus dans le lavage. Il faut les laver également. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, a dit « فَالْكَعْبَانْ دَخِلَانْ فِي الْغَسْلِ » Il a dit qu'il fallait également laver « الْكَعْبَانْ » les deux kerbes. « وَهُمَا الْعَظْمَانْ النَّاتِئَانْ فِي أَسْفَلَ السَّقْ » Et comme on l'a dit, il a expliqué qu'il s'agissait des deux os qui sortent en bas du tibia. Donc, le kerben est inclus dans le lavage. Il faut bien se laver jusqu'aux deux os, les deux boules qu'on a à droite et à gauche. Puis, on a cité le fait de passer de l'eau entre les orteils. Ibn Abbas, radiallahu an, a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ. Donc il a dit que lorsqu'on accomplissait le wudu, il fallait faire passer de l'eau entre les doigts, aussi bien les doigts des mains que des pieds. C'est ce qu'on appelle التخليل. Donc il a dit فَخَلِّلْ خَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ. التخليل, c'est le fait de faire passer l'eau. Donc il faut faire très attention à faire couler l'eau entre les doigts des mains, également les doigts des pieds. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi et authentifié par Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi. Et on le fait à l'aide du petit doigt, à l'aide de l'auriculaire. Et la preuve en est ce hadith où Al-Mustawrid ibn Shaddad a rapporté: Ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha tawaddaa yadluqu asabi' rijlihi bikhinsiri. Donc il a vu que lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, accomplissait le wudu, il frottait ses orteils avec son auriculaire, avec son petit doigt. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi. Et lorsqu'on se lave les pieds, il faut faire très attention à ne pas oublier des parties du pied. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a une fois vu un homme qui s'était mal lavé les pieds. Et donc il a dit « Waylun lil aqabi minan nar ». Il a dit « Prenez garde aux arqab ». L'arqab, ce sont les talons. Donc il a dit « Prenez garde aux talons », c'est-à-dire les talons qui sont mal lavés lors de l'odo, contre un nar, contre l'enfer. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc il faut faire très très attention à faire passer de l'eau de partout. Il faut bien laver le pied. Il ne suffit pas de faire le mess, de prendre les mains humides et de passer comme ça. Non, il faut bien faire couler l'eau sur tout le pied. Il faut que toutes les parties du pied soient atteintes par l'eau. Puis, deuxièmement, on a cité qu'il était mustahab, qu'il était recommandé de faire l'infocation à la fin des wudu, des ablutions. Et la preuve en est ce hadith, le prophète alayhi salatu wasalam a dit que celui qui accomplissait le wudu avec application, puis disait ensuite Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh illa futihat lahu thamani abwab al janna yadkhulu min ayyasha. Donc si la personne dit cette invocation là après avoir accompli le wudu, les 8 portes du paradis lui sont ouvertes et il entre par celle qu'il souhaite. Il entre par celle qu'il désire. Ce hadith est rapporté par Muslim. Ces invocations sont très simples, très faciles à apprendre. Il s'agit en fait des shahadatayn. Donc on dit « Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh ». Donc il ne faut pas les négliger. Elles sont très très faciles à apprendre. Il faut profiter de l'énorme récompense de ces invocations-là. Comme l'a dit le prophète, celui qui dit cela, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasulu, on lui ouvre les 8 portes du paradis et la personne choisie par laquelle elle veut entrer. Subhanallah. Ce hadith est rapporté par Muslim. Également, on a cette invocation-là, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahirin. Donc ici, on demande à Allah Azzawajal de nous placer parmi les tawabin, ceux qui se repentent, et parmi ceux qui se purifient constamment. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi. Donc, il faut veiller à ce genre d'invocations, qui sont très simples. Il s'agit des shahadatayn, donc elles sont très simples à retenir. Il ne faut pas négliger l'énorme récompense de ces invocations-là. Et également, il est recommandé, après avoir accompli le wudu, d'accomplir 2 rak'a. Et la preuve en est ce hadith du prophète alayhi salatu wasalam a dit: ma min ahad yatawadda fa yuhsin alwudu wa yusalli rak'atayn yuqbilu biqalbi wa wajhi alayhima illa wajabat lahu aljanna. Donc il a dit que toute personne qui accomplit son wudu avec application puis accomplit 2 rak'a avec le cœur et le corps soumis sincèrement à Allah sans que le paradis lui soit promis. Donc si la personne accomplit 2 rak'a, le paradis lui est promis. Donc il est bon d'accomplir 2 rak'a après avoir accompli le wudu, les ablutions. Donc, comme on l'a dit, nous, on essaye de faire tout cela. On essaye d'avoir le maximum de hasanat, le maximum de récompenses. Puis, septièmement, on a cité quelque chose qui concernait le lavage des membres. Il est parvenu que le prophète, alayhi salatu wassalam, a effectué l'wudu en lavant ses membres une fois, comme l'a rapporté le Bukhari, numéro 157. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a également effectué les ablutions en essuyant ses membres, en lavant ses membres deux fois, hormis la tête, comme l'a rapporté le Bukhari 158. Et il est parvenu trois fois qu'il faisait cela trois fois, hormis la tête, comme l'a rapporté le Bukhari numéro 159. Donc il est permis de se laver les membres une fois, deux fois ou trois fois. La tête, c'est une fois seulement. Mais le minimum obligatoire est une fois. Et si on le fait deux fois, on a plus de mérite. Et si on le fait trois fois, on a encore plus de mérite. Donc il est recommandé et plus méritoire de le faire deux fois et encore mieux trois fois. Mais la tête, une fois seulement. Et il ne faut pas le faire plus de trois fois. Il ne faut pas se laver les membres plus de trois fois. Et ici, on va se poser cette question-là. Est-il permis de se laver certains membres deux fois et d'autres trois fois? Donc par exemple, si j'accomplis le wudu, est-ce qu'il est permis que je me lave les mains deux fois et le visage trois fois? Alors, la réponse est ce qu'a cité l'imam Ibn Qudama, rahmatullah alayh, dans son livre Al-Mughni. Qala, وإن غسل بعد إعضائه مرة وبعضها أكثر جاز. Donc il dit que si une personne se lave les membres une fois ou deux fois et d'autres plusieurs fois, par exemple trois fois, جاز, cela est permis. Pourquoi? Parce que il est permis d'accomplir le wudu en accomplissant, en lavant les membres deux fois ou trois fois ou une fois. Donc vu que cela est permis entièrement, cela est permis également partiellement, c'est-à-dire pendant le même wudu. Et ce qui appuie cela est ce hadith rapporté par le Bukhari muslim où tawaddaha faghassala wajhahu thalatha. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a accompli le wudu, il s'est lavé le visage trois fois. Waghassala yadayhi marratayn. Il a lavé ses mains deux fois. Wamasaha birasihi marra. Et il a fait le masah une fois. Donc, dans ce hadith rapporté par le Bukhari muslim, indique clairement que dans le même wudu, eh bien, le prophète s'est lavé le visage trois fois et les mains deux fois. Donc, d'après cela, d'après ces preuves, il est permis de se laver certains membres, par exemple, une fois ou deux fois, et d'autres trois fois. Cela est permis. Puis, on a cité nawaqid de l'wudu. Nawaqid de l'wudu est ce qui annule, ce qui invalide le wudu, les ablutions. Alors, nawaqid de l'wudu signifie mufsidat de l'wudu. C'est ce qui annule, ce qui invalide le wudu. Et comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, nawaqid de l'wudu, ce qui invalide le wudu, se divise en deux catégories. La première, hein, mujma' alayh, c'est celles qui sont où il n'y a aucune divergence. Ce sont celles qui reposent sur des preuves claires et nettes et authentiques du Coran et de la Sunna. Et la deuxième catégorie sont celles où il y a khilaf, où il y a divergence. Donc, certains points, les savants ont divergé sur certains points, à savoir est-ce que cela invalide le wudu ou pas. On pourrait citer par exemple le lavage du mort. Certains savants ont dit que le lavage du mort invalidait le wudu et d'autres non. Sahih, la ville plus juste, est que cela n'invalide pas le wudu. Donc, mais par contre, il y a khilaf sur cette question-là. Donc, nous, on va citer certains points. Alors, le premier point est ce qui sort par les deux voies naturelles. Donc, que ce soit l'urine, les excréments, les pets, le liquide séminal ou le liquide spermatozoïde, tout cela invalide el wudu. Et cela englobe aussi bien ce qui est tahir, ce qui est pur, que ce qui est najis, ce qui est impur. Par exemple, ce qui est pur, on pourrait citer comme exemple el meni, le liquide spermatozoïde est tahir et pourtant il invalide le wudu. Donc, contrairement à ce que certains peuvent penser, peuvent croire, le liquide spermatozoïde n'est pas najis, il n'est pas impur, il est pur. Et d'ailleurs, on a été créé à partir de smeni. Donc, comment dire qu'on a été créé à partir d'une chose qui est impure? Donc, el meni est pur, est tahir, mais il invalide le wudu. Et comme exemple de ce qui est impur, il y en a beaucoup, il y a le boule, l'urine, lorsqu'on va aux toilettes, le dem. Donc tout cela est najis, le sang. Le dem, c'est le sang. Puis, deuxièmement, on a cité la perte de raison, zawal al-aql. Alors, que ce soit à cause de folie, d'évanouissement, d'ivresse ou autre. Et zawal al-aql, la perte de raison, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, se divise en deux catégories. La première est zawal bil-kulliya. C'est une perte totale de raison. Il a cité par exemple al-junun. Si une personne devient folle, qu'elle est atteinte de folie, dans ce cas-là, elle perd totalement sa raison. Et la deuxième, il y a tortiya bisabab yujib dhalika li mudda muayyana. C'est une perte de raison, mais momentanée. C'est temporaire, une perte de raison temporaire. Il a cité par exemple un homme, le sommeil. Donc lorsqu'on dort, on perd nos sens, mais c'est momentané. C'est pour un instant, c'est provisoire. Également, l'irma. Si une personne s'évanouit, elle perd conscience, mais c'est provisoire, c'est momentané. Ou al-sukr, l'ivresse également. Si une personne boit de l'alcool, elle perd sa raison provisoirement. Donc tout cela invalide al-wudu, les ablutions. Mais par contre, il a cité que yassir noum la yanqud al-wudu. Alors, lorsqu'une personne a sommeil, elle somnole, mais elle ne dort pas profondément. Alors, est-ce que cela invalide le sommeil ou pas? L'avis le plus juste est que cela n'invalide pas le wudu, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Donc, si la personne garde ses sens, elle a toujours conscience de ce qui se passe. Par exemple, elle sait, elle a sommeil, elle somnole, mais elle sait, par exemple, si un gaz est sorti. Eh bien, dans ce cas-là, cela n'invalide pas le wudu. Mais si, par contre, la personne dort profondément et qu'elle perd ses sens, dans ce cas-là, le sommeil yanqud al-wudu, invalide al-wudu. Donc voilà. Donc la somnolence, la légère somnolence, où la personne ne perd pas ses sens, n'invalide pas al-wudu. Troisièmement, on a cité mas al-dhakar, le fait de toucher les parties génitales. Donc si une personne touche ses parties génitales, touche son sexe, cela invalide al-wudu. Mais ici, les savants ont divergé. Certains ont dit que cela est dans le cas où la personne touche son dhakar, son sexe, ses parties génitales, avec shahwa, avec excitation. Et d'autres ont dit que si c'était en contact direct, si la main était en contact direct avec les parties génitales. Et la cause de la divergence est qu'il y a un hadith où le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Man massa dhakaru falyatawadda ». Il a dit que celui qui touche son dhakar, c'est-à-dire ses parties génitales, recommence son wudu. Donc ici, il a dit que celui qui touche ses parties génitales devait recommencer ses ablutions. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh al-Albani. Et d'un autre côté, on a un autre hadith rapporté par Qais ibn Talq, d'après son père, qui a entendu le prophète Ali salatu wasalam, lorsqu'on lui a posé la question sur mass al-dhakar, c'est-à-dire le fait de toucher son sexe, qala laysa fi wudu. Il a dit que cela n'invalidait pas le wudu. On n'a pas à refaire le wudu lorsqu'on se touche le sexe. Innama huwa mink. Le prophète Ali salatu wasalam a dit que le sexe était une partie de notre corps. Et ce hadith est rapporté par Ibn Majah et Cheikh al-Albani le considère authentique. Donc ici, qala innama huwa mink, c'est-à-dire c'est une partie de notre corps. Et dans une autre version, hal huwa illa mud'a mink, c'est-à-dire est-ce que c'est qit'a lahm, yani le sexe n'est qu'un morceau de notre chair. Donc c'est une partie de notre corps, c'est une des parties de notre corps, tout comme les autres parties du corps. Donc par exemple, si une personne se touche la cuisse ou la jambe, cela n'invalide pas le wudu. Et bien, tout comme cela n'invalide pas le wudu, le fait de toucher le sexe n'invalide pas le wudu. Donc, ici, les savants ont divergé. Et donc, ils ont essayé de faire un regroupement entre ces deux hadiths. Donc, dans le premier, le prophète a dit que celui qui touche son sexe doit recommencer le wudu. Et ici, il nous dit qu'on n'a pas à refaire le wudu car c'est une partie de notre corps. Donc, ils ont dit, pour faire le regroupement entre ces deux hadiths, on va dire que c'est dans le cas où la personne touche son sexe avec shahwa, avec excitation. Donc dans ce cas-là, cela invalide le wudu. Voilà ce qu'ont dit certains savants. Et d'autres savants ont dit que si c'était en contact direct, si la main est en contact direct avec le sexe, cela invalide le wudu. Par contre, si il y a par exemple un vêtement entre la main et le sexe, cela ne valide pas el wudu. Et ce qui indique cela est que l'homme qui a posé cette question-là parlait de toucher son sexe pendant la salat. Donc ils ont dit, on ne peut pas toucher son sexe pendant la salat. Donc ce qui est désigné, c'est le contact direct. S'il y a un contact entre la main et le sexe directement, ce cas invalide el wudu. Sinon, s'il y a un vêtement entre eux ou autre chose, cela n'invalide pas le wudu. Voilà ce qu'ont dit d'autres savants. Donc voilà comment ils ont raisonné. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, penche plus vers l'avis que c'est dans le cas où on touche son dhakar, son sexe, avec shahwa, avec excitation. Et il a cité que lorsqu'il n'y a pas un contact direct, eh bien cela ne s'appelle pas un mess. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, هو إذا كان من وراء حائل لا يعتبر مسا ما يقال مس لأن المس هو المباشرة. Il a dit que lorsqu'on touche quelque chose à travers un vêtement, eh bien, en langue arabe, on n'appelait pas cela un mess. On ne peut pas dire qu'il a touché son sexe. قال لأن المس هو المباشرة. Il a dit le mess en arabe, c'est le fait de toucher. هو المباشرة. المباشرة, c'est le contact direct. Donc, il explique le mess, c'est le contact direct. Donc, selon lui, le mess ne représente que le contact direct. S'il y a un vêtement entre la main et autre chose, on ne dit pas qu'il a mess, qu'il a touché cette chose-là. Dans ce cas-là, Cheikh Ibn Uthaymeen dit qu'on a touché le vêtement et non pas le sexe. Donc, il penche plus vers l'avis que c'est dans le cas où on touche son sexe avec shahwa, avec excitation. Et cette question-là est très importante pour les mères qui lavent leur enfant. Parfois, certaines mères douchent leur enfant et elles veulent savoir si elles ont touché, sans faire exprès, par exemple, le sexe de leur enfant, est-ce qu'elles doivent refaire le rodo ou pas? Donc, c'est pour cela que Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, a dit la même chose. Il est du même avis. إذا كان المس للفرج بشهوة ينقض الوضوء. Si la personne touche le sexe avec shahwa, avec désir, avec excitation, dans ce cas-là, cela invalide le wudu. Et il a cité également donc que la femme qui touche le sexe de son enfant, par exemple si elle le douche, n'a pas à refaire le wudu. Donc voilà ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh. Voilà pour cette question-là. Le quatrième point, le quatrième naqid qui invalide le wudu est manger de la viande de chameau. En effet, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on devait refaire les ablutions après avoir mangé de la viande
De chameau.
قالوا أنتوضأ من لحوم الإبل. قال نعم. Il a répondu oui. Donc le fait de manger de la viande de chameau invalide le wudu. Ce hadith est rapporté par Muslim. Et enfin, cinquièmement, on a cité le sommeil profond. Et la preuve en est ce hadith où le prophète alayhi salatu wasalam, a dit Man nama falyatawadda. Que celui qui dort refasse son odo, ses ablutions. Ce hadith est rapporté par Ahmed et Cheikh Al-Albani le considère hassan. Et on a déjà cité le cas de la légère somnolence. Donc on a dit que c'était le sommeil profond qui invalidait le odo et non pas la légère somnolence où on garde tous nos sens. Donc voilà, on en a fini pour Nawaqid et l'odo et on a fini également pour Sifat et l'odo, la description de l'odo. Des ablutions du prophète alayhi salatu wassalam, فنسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا للإسلام والمسلمين. Et nous, l'important, c'est d'essayer de mettre en pratique ce qu'on vient de voir dans ce fascicule-là pour accomplir le wudu, les ablutions comme le prophète alayhi salatu wassalam les accomplissait pour avoir la récompense.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم